Rome Opéra. Émission spéciale.
Le 6 octobre 1600, une date qui ne vous dit probablement rien, et c'est pourtant ce jour-là que le duc de Mantoue, lors du mariage de sa belle-sœur, entendit pour la première fois l'Eurydice de Jacopo Peri, œuvre tout à fait originale pour l'époque et début d'un style nouveau, l'opéra. Intrigué, touché, ou peut-être simplement pétri d'orgueil, notre cher duc s'empressa à son retour de commander à son maître de musique une pièce du même style, en mieux évidemment, afin de réjouir sa cour. C'est ainsi que naîtra quelques années plus tard l'Orfeo du grand Claudio Monteverdi. Nous recevons aujourd'hui sur Forum Opéra Emiliano González Toro et Mathilde Etienne qui sortent tout juste avec leur ensemble Il Gemelli, ce hit de la musique ancienne. Bonjour Emiliano, bonjour Mathilde.
Bonjour Bruno.
On parlait la dernière fois de la Betulia Liberata de Mozart, inconnue du grand public. Cette fois-ci, on va donc parler de l'Orfeo, qui est beaucoup plus enregistré, beaucoup plus connu. Comment vous est venue cette envie ?
Bah, l'Orfeo de Monteverdi, c'était un rêve que, en tout cas, personnellement, j'avais depuis très très longtemps. J'ai eu plusieurs fois la possibilité de chanter dedans, ne serait-ce qu'à Genève, que ce soit au conservatoire, que ce soit même au Grand Théâtre. J'avais fait à l'époque une audition pour cet opéra que je connaissais du conservatoire de mes études, mais que je n'avais jamais vraiment étudié profondément. Et j'avais fait une triple audition même pour le Grand Théâtre, parce qu'à un moment donné, j'avais auditionné pour un des rôles des bergers. Puis en fait, apparemment, ils avaient bien aimé ce que j'avais fait. Ils m'ont demandé de réauditionner plusieurs fois pour Orfeo. Puis finalement, ils ont pris Victor Torres, qui était à l'époque la superstar des Orfeo et de cette musique-là. Et pas une demi-seconde, bah, évidemment, on se disait « Ah zut, je suis passé à deux doigts de chanter tout de suite le rôle d'Orphée alors que j'avais 20 ans et des brouettes. » Mais en même temps, du coup, j'ai pu côtoyer Victor, qui pour moi était un dieu absolu. Et depuis ce moment-là, c'est resté ancré quelque part, même dans plusieurs endroits de mon corps et de ma tête, en me disant que c'est un rôle que je ferais et dans lequel j'aurais envie de m'investir beaucoup. Et puis, petit à petit, tout au long de ma carrière, qui date maintenant de plus de 20 ans, eh ben, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire. Et finalement, ça ne s'est pas vraiment fait. Ou ça s'est fait des fois de façon informelle, ou au Japon, par exemple, ou avec le merveilleux Ryo Terakado. Ou bien, j'ai eu la chance de le faire avec Ottavio Danton au Festival Monteverdi à Crémone. Alors là, vraiment, c'était la grosse classe pour moi. Je me sentais très honoré d'être là-bas. Et à un moment donné, avec toutes ces années, toutes ces expériences, ben, pour moi, ça devenait assez évident, y compris, j'expliquerai après pourquoi, dans le travail qu'on avait avec Mathilde déjà sur d'autres choses, on s'est dit, ben ouais, en fait, on peut le faire. En fait, je pense qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes, parce que déjà, on avait beaucoup, beaucoup bossé dessus, on avait beaucoup réfléchi, on en avait beaucoup parlé. Et ça devenait de plus en plus évident que plutôt que de se dire qu'on allait offrir ce projet ou de le construire avec d'autres personnes, bah, quitte à autant sauter le pas et plonger et le monter nous. En fait, Il Gemelli, indirectement, est né de cette énergie-là et de cette envie-là. Elle n'a pas spécifiquement, intrinsèquement été... L'association, toute l'énergie qui a été créée autour de ça n'a pas été faite spécifiquement que pour ça, mais en tout cas, ça a beaucoup nourri toute la création de l'ensemble, de l'association, de tous les gens qui ont commencé à travailler avec nous. Et donc, ouais, c'est un travail de longue date qui ne s'est pas fait d'une façon très linéaire. Il y a eu des périodes où c'était très dense, où on s'est dit on va à fond dedans, puis après, ça s'est relâché un peu, et après, on a replongé, puis ça s'est fait au gré des rencontres aussi, au gré des situations, au gré de la maturité qu'on avait envie d'avoir au travers de ce projet et pas d'arriver et de se dire on fait un Orfeo de plus, on avait envie d'y amener une patte et d'amener une réflexion, d'amener une construction, d'amener quelque chose qui ne soit pas juste l'envie de faire de la musique, aussi autre chose.
Oui, donc cet enregistrement, c'est le fruit d'une expérience musicale très personnelle et une collaboration qui est en fait l'ADN d'Il Gemelli.
Je pourrais presque dater le moment où c'est né, on s'est dit, en fait, faisons-le nous-mêmes.
Alors, comme Emiliano le disait tout à l'heure, il a chanté quasiment tous les rôles, voire tous les rôles dans cet opéra. Alors, pour vous, Mathilde, c'était une évidence que ce soit lui qui tienne le rôle-titre ?
Je l'ai toujours entendu dans Orfeo. Emiliano, je le connais depuis quelques années maintenant. Et la première fois que j'ai rencontré, c'était dans du Monteverdi. Il a débarqué comme ça, dans une répétition, il remplaçait quelqu'un au pied levé. Il sortait de l'avion, il arrive, il enlève sa casquette, il commence à chanter. Et j'ai fait waouh! Mais vraiment, c'était un choc absolu. Et c'est un chanteur qui a beaucoup fait des rôles comiques, des nourrices, des clowns, des bouffons, enfin voilà, des rôles dits de caractère et qui fait très très bien parce que c'est un très bon comédien et puis c'est un grand artiste. Mais en fait, il a une voix que moi j'entendais pas, c'est pas une voix de caractère, c'est une voix avec beaucoup de noblesse. Et je me disais, mais quand même, pourquoi il chante pas l'Orfeo? C'est un rôle pour lui. Et donc, c'est une frustration commune, je pense. Qui nous a amené à dire, ben voilà, on va le faire nous-mêmes, au moins on est sûr qu'on le fera comme on en a envie. Ce sera peut-être pas la meilleure, mais si on fait des erreurs, ce sera nos erreurs à nous. Voilà, c'est quelque chose qui nous ressemblera, qui ressemblera à ce qu'on est maintenant et ce qu'on a envie de faire. Voilà.
Un enregistrement qui vous ressemble, ça veut dire que quand vous le réenregistrerez ou que vous le redonnerez en concert dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sera probablement une nouvelle version en fait.
Exactement. Mais en fait, c'est l'idée. C'est pour ça que ce travail sur cette musique dite baroque, on peut y revenir tout à l'heure sur l'Orfeo qui n'est pas exactement encore... les balbutiements du baroque. Hein, on est encore sur quelque chose d'un tout petit peu avant. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que pour moi, les versions de référence, la dernière en date, évidemment, parce que je l'ai rencontré, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, c'est celle de Garrido et elle date de plus de 20 ans. Non pas que les autres sont moins bien, mais c'est juste que c'est celle qui m'est restée parce que pour X et Y raisons, avant il y a eu celle de Michel Corbeau, il y a eu encore celle d'Arnoncourt, mais on parle de deux générations plus tôt. Nous on est la troisième génération du baroque d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a eu Gardiner, Corbeau, Arnoncourt, d'autres avant, on ne va pas faire du name dropping pour faire du name dropping, puis après il y a eu toute la nouvelle génération de ceux qui ont aujourd'hui entre 55 et 60 ans, et puis nous on est la génération d'après. Et où justement, on arrive, et c'est ça que je trouve très intéressant, aujourd'hui à un stade où, ben, sans faire offense à nos aînés, on a une capacité d'analyse et de savoir sur cette musique qui est encore plus poussée que dans les années 70 ou dans les années 2000. On a encore plus de savoir et on espère vraiment que si un groupe refait l'Orfeo dans 5, 10, 20 ans, 30 ans, il est découvert de nouvelles choses et de nouvelles raisons de prendre un prisme comme celui-ci ou comme un autre. Et c'est ce qui rend cette musique absolument intemporelle et qui est toujours moderne, toujours nouvelle. Et on peut toujours aller chercher, on peut toujours aller creuser plus loin, on peut toujours trouver une piste de réflexion. Et la nôtre aujourd'hui, elle est axée surtout sur justement la vocalité.
Donc c'est un peu un retour aux sources. On sait que cette musique, elle n'était pas dirigée, en tout cas pas par un chef d'orchestre ou de chœur comme on l'entend aujourd'hui, mais elle était quand même conduite souvent par le ténor d'ailleurs. C'est une manière pour vous de revenir à l'essence de la musique ancienne à travers la ligne du chant.
Nous, on travaille sur justement cet aspect de vocalité. Notre travail musicologique de recherche, les discussions qu'on a eues avec des musicologues et les recherches de Mathilde et de tous les gens qui travaillent avec nous, nous ont amené à cette conclusion qu'en réalité, ça vaut la peine de prendre cette musique-là par le prisme de la ligne horizontale du chanteur et pas une verticalité instrumentale. C'est un point de vue, ça ne veut pas dire qu'on a raison ou on a tort, on n'en sait rien, mais enfin, c'est un point de vue qu'on a envie de défendre parce que la majorité des compositeurs de cette époque, la majorité des superstars de cette époque étaient ténors et étaient, qu'ils soient compositeurs, qu'ils soient instrumentistes, qu'ils soient librettistes, ils étaient ténors. Et moi, comme ça, je vois mal Perry chanter le rôle principal dans l'Eurydice, et puis que ce soit quelqu'un à la viole, au luth ou au clavecin, qu'est-ce que j'en sais, qui lui dise « tu me suis » et voilà. Non, ça me semblait assez logique que le compositeur, ou en l'occurrence Monteverdi qui était violiste, il n'avait pas besoin qu'on lui explique comment il fallait suivre un continuo en fait. Il savait par la voix diriger un continuo, parce que ça faisait partie du langage commun. Donc ça nous semblait une option intéressante.
Et sur un tout autre sujet, pourquoi Hegemelli? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce nom pour votre ensemble?
Hegemelli, ça veut dire les Gémeaux. les Gémeaux, parce que déjà, on est Gémeaux, Mathilde et moi, et l'immense majorité des gens qui travaillent dans iGemelli sont Gémeaux. c'est pour la petite anecdote.
Le noyau dur, en tout cas,
est Gémeaux. Ouais, non, c'est assez drôle.
Pas sûr que le ministère du Travail approuve cette méthode d'audition.
Non, mais ça n'est
pas une mafia.
Ça reste anecdotique, mais il y a aussi cet aspect, justement, déjà de bicéphalité, d'avoir envie de aussi collaborer. Ce n'est pas quelque chose d'unilatéral. Quand on travaille avec des continuistes, quand on travaille avec Rodrigo Calvera, qui est flûtiste, quand on travaille avec Rio Terracado, qui est un immense violoniste dans ce style, en baroque. Évidemment que je ne vais pas, moi, commencer à lui dire comment il doit jouer son instrument. Je veux dire, quand on construit cet ensemble, quand Mathilde a des notions, un travail, des recherches, et un travail musicologique qui est tellement poussé que forcément, à un moment donné, on prête attention aux compétences de chacun qui fait partie de cet ensemble-là. Je suis, comme on dit, la tête de gondole, c'est moi qui dirige, qui suis le responsable, qui suis le producteur la plupart du temps, d'ailleurs, de nos projets, et qui dirige musicalement la chose, mais je ne pourrais jamais faire ça sans une équipe soudée et forte autour de moi. Ce serait impossible sans Violaine Cochard, sans Rodrigo Calvera, sans Julien Léonard, sans toute l'équipe qui est autour de nous, parce que justement, tout le travail sur la vocalité et sur le fait que quand on monte un opéra comme Orfeo, et que je chante le rôle-titre, ben, ce serait complètement déjà maladroit et probablement même physiquement impossible que je chante le rôle-titre, que je sorte de mon rôle, que je me retourne et que je commence à diriger tout le monde pendant le concert. Ce serait, on ne l'a même pas envisagé, mais comme ça, si j'essaie de regarder l'image, je pense que ce serait plutôt moche.
Les gens, ça leur fait bizarre qu'il n'y ait pas de chef de monde, en fait. Ils ne comprennent pas d'où ça sort.
Ça peut être compliqué parfois, le travail collectif. Comment vous vous organisez en amont d'un enregistrement, d'un concert pour travailler une œuvre, pour travailler un répertoire? Qui est le capitaine d'équipe? Qui donne les informations? Est-ce que c'est un vrai travail commun? Est-ce que Emiliano a quand même le dernier mot?
En fait, nous, on est au moment du concert, on est comme une équipe de foot. Et je dirais, Emiliano, c'est le capitaine, il est sur le terrain avec nous. Mais il y a une stratégie qui a été planifiée. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a à faire et le jeu, c'est pendant qu'on joue, c'est de se passer la balle. Donc, à un moment donné, qu'on soit chanteur ou instrumentiste, on a la balle dans les mains. Donc, on est responsable du jeu collectif. Ça suppose que tout le monde ait la même vision globale de l'œuvre. On n'est pas là, j'arrive, je chante mon air et je m'en vais. Non, on sait exactement ce que tout le monde joue. Parce ça repose sur une solidité d'équipe, en fait. S'il n'y a pas de chef, ça suppose que tout le monde soit responsabilisé. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui donne aussi la tension, parce qu'on dit c'est sans filet, quoi. On est obligé de s'écouter, parfois dans des acoustiques difficiles, où on est loin, et ça suppose de développer des antennes. Et c'est le travail que font les acteurs sur une scène de théâtre, quoi. Le metteur en scène, il est pas sur scène avec les acteurs, il a été là avant. C'est la même chose, en fait. Le travail de préparation, je pense que pour nous, c'est formidable parce que ça, c'est un travail de recherche, mais c'est aussi chercher les bonnes personnes avec qui on va pouvoir travailler.
Vous cherchez à créer une vraie connivence entre les musiciens. Ce n'est pas simplement des musiciens qui sont embauchés pour leurs talents vocaux, musicaux. Il y a une vraie complicité entre tous ces musiciens.
Il faut des gens qui soient musicalement capables de comprendre et d'accepter aussi ce qu'on leur demande, parce que c'est pas forcément, ça peut être très déroutant au début. Des gens qui vont bien s'entendre, parce que c'est une équipe, donc c'est presque familial. Donc il faut aussi que humainement ça se passe bien.
Oui,
des gens bien. Qui soient souples et des gens qui soient à la fois, qui aient beaucoup de points communs, mais qui puissent aussi être complémentaires.
D'accord. Et ce qui est formidable, et on l'a vécu encore tout récemment dans un des derniers concerts avant le confinement qu'on a fait à l'Arsenal de Metz, où justement on était encore déjà dans ces nouvelles contraintes d'énormes distanciations, on a joué clairement très loin les uns des autres, et ça a créé forcément une écoute différente et des tensions dans l'écoute et dans le fait de justement être concentré et de ne pas perdre le fil, parce que quand on voit où était toute l'équipe des cuivres et où était toute l'équipe du continuo, ils étaient vraiment très très loin. Et donc, pour faire en sorte que tout ça, ça sonne bien, ensemble et cohérent, wow, c'était un gros défi, quoi.
Ça donne une énergie vraiment très très particulière. C'est fabuleux.
Pour revenir sur l'Orfeo, on apprend en cours de musique que ça serait le premier opéra, et pourtant en y regardant d'un peu plus près, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est d'ailleurs l'Eurydice de Péri qui a provoqué la commande de cette œuvre. Alors qu'est-ce qui a fait que l'Orfeo soit aujourd'hui considéré comme l'œuvre fondatrice d'un nouveau genre, et pourquoi les autres sont-ils passés un peu à la trappe ?
Alors en fait, l'Orfeo, c'est pas le premier chef-d'œuvre de la musique. Ce n'est pas le premier opéra, mais pour moi, c'est la première œuvre vraiment synthétique. C'est-à-dire une œuvre qui reprend plusieurs types d'écriture. Et c'est ce que fera à l'autre bout du spectre baroque, entre guillemets, c'est ce que fera Bach aussi à la fin. C'est-à-dire une œuvre synthétique qui reprend tout ce qui a été écrit jusque-là. Et ce n'est pas seulement valable d'un point de vue musical, c'est un point de vue général. C'est-à-dire que l'œuvre maîtresse de Monteverdi, qui est l'Orfeo, est un chef-d'œuvre musical, mais aussi architectural. Ça reprend vraiment des données d'architecture qui sont basées sur les mathématiques. Et c'est aussi comparable au grand chef-d'œuvre de peinture de la Renaissance. Si je fais des comparaisons, le livret de Stelgio, qui est d'une grande rigueur architecturale, est très sophistiqué, donne à Monteverdi l'occasion de s'exprimer comme le ferait un peintre. Quoi. C'est comme si on avait un dessin et qu'à l'intérieur, lui, il faisait de la peinture. Et c'est mathématiquement aussi fort que les tableaux de Piero della Francesca, avec cette idée de perspective, cette idée de symétrie, de rapport de proportion qu'on trouve dans la peinture de la Renaissance et particulièrement chez les grands intellectuels de la peinture. Et sinon, pour ce qui est de la symbolique, parce qu'il y a une symbolique très très forte qui vient de la philosophie néoplatonicienne, et aussi la grâce des tableaux pastoraux, là on est chez Botticelli, par exemple, avec cette espèce de mystère extrêmement gracieux des tableaux du printemps, de la naissance de Vénus, par exemple, qui sont très beaux à regarder, mais qui ont aussi une valeur symbolique très très forte. Donc c'est une œuvre synthétique à tout point de vue. Et en musique, on a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que Monteverdi a inventé avec tous ses livres de madrigaux qu'il a écrit à ce moment-là. Donc tout ce travail sur la polyphonie, sur les figures de style, donc la rhétorique musicale, sur l'écriture. Il est en train d'inventer l'écriture en duo, par exemple, qu'il va développer dans le livre 7, le livre 8. Donc, tous les duos de Berger, par exemple, qu'il est en train d'inventer à ce moment-là.
Une chose qui m'a marqué pendant l'écoute de votre disque, c'est cette notion de mouvement constant, de tactus commun du début à la fin de l'œuvre. Et en fermant les yeux, je pouvais même quasiment visualiser une mise en scène. Et comme je sais que vous l'avez donné plusieurs fois en concert avant de l'enregistrer, quel a été votre processus artistique pour passer du live à l'enregistrement sonore ?
En fait, il n'y a pas eu vraiment de différence entre quand on l'a joué sur scène et quand on l'a enregistré.
Quand on l'a fait au disque, c'est
la même idée. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du tactus. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi dès le départ. Et l'idée d'un tactus unique sur toute l'œuvre. Et ça, ça vient de notre réflexion sur ce que je disais, sur l'unité, la cohésion. En fait, c'est une notion vraiment qui est propre à la Renaissance, la proportion.
La notion de liberté vocale et rythmique aussi, elle est importante dans cette musique-là. Comme vous ne dirigez pas les chanteurs, comment vous mettez ça en place ? Certains chefs veulent coûte que coûte diriger. D'autres considèrent que ça doit être la liberté du chanteur. Comment on fait quand il n'y a pas de chef ? Comment on travaille ces récitatifs qui sont chez Monteverdi très importants ?
Le récitatif n'est pas libre à 100%. On a souvent utilisé cette comparaison avec le jazz ou avec la musique latino-américaine. En fait, quand je fais travailler les chanteurs sur le récitatif, comme moi je ne suis pas là pour les diriger, et comme on essaye de faire en sorte que personne les besoins de passer le concert entier à remuer la tête, que ce soit au clavier ou au violon ou à la viole ou au luth. On essaye de faire en sorte que les gens puissent justement garder ce lien. C'est important de donner un langage, de donner un vocabulaire commun à chacun. Et ce vocabulaire commun, déjà, c'est le métronome. Et je fais travailler tous les chanteurs avec un métronome. Très strictement, vraiment très strictement. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, quand on arrive à garder exactement la même proportion au sein même d'un récitatif, ça donne, avec la structure écrite par Monteverdi, un swing et une liberté apparente incroyable. On a l'impression que tout flotte, que ça va, c'est très évident, ça vole, ça peut être très déroutant. Je me souviens qu'il y a encore récemment une critique qui a dit qu'on n'avait pas fait de l'ornementation, on avait enlevé toute l'ornementation. Mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure au début de notre discussion, on a énormément réfléchi sur cet Orfeo, beaucoup travaillé et anticipé les choses.
On est habitué à beaucoup d'ornements aussi dans cette musique, dans les lignes vocales. Dans votre version, certains passages sont totalement dénués, totalement nus de tous ces ornements, de toutes ces volutes vocales. Quelle a été votre vision de l'ornementation dans cette pièce ?
C'est pour une raison bien précise. C'est parce que le chant orné et le chant normal, pour parler d'une façon profane, il a des dénominations. Le chant orné, il est uniquement pour les dieux. Et les seuls dieux, c'est ou bien la musique, ou bien Apollon, ou bien Orphée, mais Orphée uniquement quand c'est le moment où il doit utiliser sa fonction de dieu. Et qu'il y a toute cette partie ultra ornée dans le Possente Spirito qui le fait passer du côté déique. Avant, c'est un être humain. Et les humains, ils n'ont pas besoin d'orner. Et c'est aussi pour la même raison que Monteverdi, avec Stridio, quand ils font dire à un des esprits infernaux, dans l'acte 4, ils lui font chanter des mauvais accents toniques. Alors, un coach italien normal qui n'aurait pas l'information au départ va se dire « Ah, attendez, il y a une faute d'italien, on ne dit pas cette phrase de cette façon-là. » Mais en réalité, la personne qui sera informée va te dire « Mais attendez, en fait, c'est normal. C'est parce qu'il doit représenter une certaine caste peu élégante, peu instruite. Et donc, il va faire des fautes quand il va chanter. » Et il l'a écrit comme ça et on le conserve tel quel. Et en réalité, ce qui nous permet de justifier toutes les options qu'on prend dans cet Orfeo et toutes les réflexions qu'on a eues, c'est justement de se dire que Monteverdi et Stridio ont donné des informations extrêmement précises à énormément de moments dans la partition et que ce serait dommage de ne pas utiliser leurs propres indications.
Il y a quelque chose qui est très particulier à ce compositeur et qu'on ne retrouve pas très, très, très peu dans les compositeurs de la même époque, c'est que c'est un maniaque total. Déjà, c'est quelqu'un qui contrôlait absolument tout ce qu'il publiait, sauf à partir du moment où il est parti à Venise. Mais jusqu'à son départ de Mantoue, il tenait absolument à contrôler tout ce qu'il publiait. Et il a commencé à publier très tôt. Je crois que c'est à 15 ans qu'il a fait son premier livre, il a publié son premier recueil. Et c'est très détaillé.
Il nous donne des indications d'orchestration extrêmement précises. La première d'entre elles, c'est par exemple, pour tout l'acte 5, Orfeo n'est accompagné que d'un luth et de l'orgue. Exactement de la même façon que l'arrivée de la messagère. La messagère, elle est accompagnée, il écrit spécifiquement de sa main dans la partition « Organo di legno e chitarrone ». C'est tout.
C'est un contrôle freak absolu, parce qu'il veut que ce soit fait absolument comme ça et pas autrement. Donc c'est génial. C'est un peu, ça me fait penser à... Il y a une émission culinaire sur une chaîne de télévision que je ne nommerai pas. Mais je l'ai regardée, j'avoue. Il y avait une épreuve où il devait exécuter une vieille recette de cuisine. Un truc que plus personne ne mange, on ne sait même plus ce que c'est.
C'est le meilleur pâtissier.
Voilà, bon.
Et étant fan moi-même, je peux même vous dire que c'est la recette de Mercotte.
La recette de Mercotte, voilà. Et ben dans la recette de Mercotte, il y a des vieilles recettes qui sortent de je ne sais pas où, ouais. avec des trucs très précis à faire et il y a aussi des lignes qui manquent. Et malgré tout, sa maniaquerie à Monteverdi, il y a quand même des lignes qui manquent. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il y a, par exemple, un truc très étonnant pour moi, c'est dans le prologue, qui a la particularité d'être noté sur toutes les strophes. Je m'explique. Dans l'Eurydice de Périgue, il y a plusieurs strophes, je crois qu'il y a 6 strophes en tout. La tragédie, elle chante. Et lui, il ne s'est pas emmerdé, il a pris la même musique et il met le texte en dessous en 6 fois. Donc le chanteur fait ce qu'il veut, mais c'est la même chose. Monteverdi, non. À chaque fois, il réécrit une nouvelle partition pour chaque strophe. Et il écrit avec un rythme particulier, avec une mélodie qui est un peu la même, mais un petit peu différente. C'est le même dessin, mais c'est caractérisé autrement. Donc tout ça est extrêmement précis pour la chanteuse qui peut faire ça. Il n'y a pas moyen d'improviser là-dedans parce que c'est très balisé. Mais en dessous, on a des chiffrages, mais on n'a pas l'instrumentation. Donc ça, c'est à la discrétion de la direction. Donc c'est là où nous, on peut s'amuser, entre guillemets. C'est là où nous, on prend le relais du peintre et on choisit des coloris et on choisit des choses qui vont aller avec la rhétorique, avec la poétique qu'on lit là-dedans.
Donc c'est un travail très en profondeur. Vous avez abordé d'autres pièces. La méthodologie sera la même. Ou vous adaptez votre mode de fonctionnement selon le répertoire, selon le compositeur et selon la période.
L'important pour nous, c'est de prendre chaque pièce d'une façon particulière. Nous, l'Orfeo, on la travaille d'une façon particulière. Et le fait de contextualiser, c'est vraiment très important parce que ça apporte des réponses musicales. Côte Solani, on l'a pas du tout abordé de la même façon. C'est pas du tout la même façon de travailler parce qu'on n'a pas du tout les mêmes données de départ. C'est pas la même partition, c'est pas le même contexte de réalisation et les inconnus étaient pas du tout les mêmes. Et c'est ce qu'on va faire quand on fera. Je sais pas si on va faire du cavalier ou des choses comme ça, mais c'est pas les mêmes théâtres, c'est pas les mêmes acoustiques, c'est pas les mêmes équipes, c'est même pas les mêmes fonctionnements financiers de l'opéra. Donc la musique n'est pas la même. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, à cette période, c'est que tout est en train de se construire. On est dans un art de cour avec l'Orfeo, dans quelque chose de très c'est les académies de l'époque,
très codifié.
C'est l'élite artistique. Et quelques années plus tard, à Venise, c'est populaire et c'est de l'art qui doit être rentable. Donc on n'est absolument pas dans la même mentalité. Et dans la musique, ça doit pouvoir s'entendre. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est que ça dépasse largement le cadre de la musique. Je parlais de l'architecture, de la peinture. Toutes ces choses-là sont en train de bouger aussi à cette époque-là. La philosophie est en train de changer. Le monde est en train de changer puisqu'on découvre finalement qu'il y a un système solaire. Donc, c'est ça qui est fabuleux. D'œuvre en œuvre, on voyage. On voyage dans l'espace puisqu'on est là plutôt en Italie, mais aussi dans le temps. Et on voyage aussi au sein de la vie de Monteverdi, par exemple. Enfin, quand on va faire l'Ulysse, par exemple, qui est le deuxième opéra qui nous reste de Monteverdi, on est dans un autre monde. Ce n'est pas du tout le même langage. Ça ne raconte absolument pas la même chose. Et quand on va vers Poppée, on est au spectre opposé. C'est une œuvre vraiment baroque. Et pourquoi c'est baroque ? C'est ce qu'on va travailler, en fait. C'est fabuleux de voyager avec quelqu'un.
Et quel sera le prochain voyage de Gemelli ? Vers quelle destination vous allez nous emmener ? L'Ulysse, par exemple, vu que vous nous en parliez.
Pour la faire courte, on exclut pour Forum Opéra, on va l'enregistrer l'année prochaine, au mois d'octobre. Et puis, au mois de janvier, on enregistre encore une fois, sous couvert de la possibilité covidienne, un disque en duo avec Zachary Wilder, qui est un collègue que j'aime énormément, et avec lequel justement je développe une relation artistique et musicale très importante. On a énormément chanté ensemble avec plein d'autres chefs et on a des accointances et une façon, nos voix sont diamétralement opposées et pour autant on a un langage et un vocabulaire d'expression qui est très très facile à communiquer. Lui et moi on s'entend très très bien même sans se regarder. Et du coup, on a eu envie de monter un programme ensemble autour justement de façon de tous les compositeurs de cette période-là, beaucoup d'inédits. Et puis, il va sortir enfin Soleil Noir quand on pourra sortir, qui devait sortir au mois d'avril sur Razi. Et puis, l'autre truc qui est dans les cartons et qui va sortir, qui est déjà enregistré aussi, mais qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui est plus personnel, mais on y travaille aussi, c'est tout l'aspect latino-américain, où on a enregistré un disque qui s'appelle Violeta Parramit Jazz, avec Thomas Inco et toute une équipe de musiciens fabuleux, Paloma Pradal, mon père, Mathilde,
David
David
Inco.
Enco, Thomas Inco, qui a signé les arrangements. Et ce disque, il devait sortir cet été, voilà, bon, il n'est pas sorti, mais il va sortir l'année prochaine, et puis on partira en tournée avec ça, j'espère, bientôt.
À n'en pas douter, nous verrons la fin de ce long tunnel. Merci beaucoup, Emiliano González Toro et Mathilde Etienne, de nous avoir parlé de l'Orfeo de Monteverdi, un très beau disque paru chez Naïve.
Forum Opéra, émission spéciale.